l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Le 1er juillet, le jour où l'obligation de porter un masque à l'extérieur a été levée en dehors de la capitale. Pour ceux qui sont vaccinés, les citoyens de Cheongju étaient plutôt divisés. Certains profitaient de l'air frais dans un parc sans masque, alors que d'autres envisageaient toujours de porter le masque pour se sentir en sécurité. Nous ouvrons notre édition du jour avec ce sujet. Restez branchés. À tout de suite. Le 1er juillet, l'obligation de porter un masque a été levée pour les personnes vaccinées d'au moins une dose contre le Covid-19 dans le cadre de l'application du nouveau barème de distanciation sociale dans tout le pays, excepté la région de Séoul. Lee, résident de la ville de Cheongju, âgé de 74 ans, qui a rencontré l'agence presse Yonhap, se rafraîchissait dans un parc. Vacciné à l'AstraZeneca au début du mois dernier et en attente de la 12e dose, il profite d'une telle sensation agréable qu'il avait oublié depuis longtemps avec son masque suspendu à un collier. L'homme se félicite du pressentiment du retour à la vie normale en disant qu'il n'a plus besoin de se préoccuper du regard des autres quand il boit un café dans un parc. À côté de lui, plusieurs personnes âgées se sont rassemblées ici et là pour discuter ensemble sans masque ou avec un masque qui ne couvre que le menton. À partir du 1er juillet, tous ceux qui sont vaccinés d'une dose ou plus depuis au moins 2 semaines sont autorisés à faire des activités en plein air sans masque dans la province de Chungcheong du Nord. Cette décision a été prise près d'un an après l'obligation du port du masque le 23 août 2020. Cependant, il est toujours nécessaire de le porter lors des rassemblements ou dans les installations extérieures, tels que les terrains de baseball ou de football et les parcs d'attractions ou tout autre endroit très fréquenté. Cho, un citoyen trentenaire qui mange une brochette de viande dans une rue fréquentée, a été vacciné à Yansen et a également le droit de ne plus porter un masque à partir du 1er juillet. Il est content de pouvoir se découvrir le visage parce qu'il fait chaud, mais il pense l'enlever uniquement quand il va dans un endroit où il y a peu de monde. Le marchand ambulant qui écoute son histoire ajoute que son client vacciné a enlevé fièrement son masque alors qu'avant il y avait de nombreuses personnes qui mangeait dans la rue, gêné par le regard des autres. Kim Yong-dae, 63 ans, inoculé du Pfizer, a manifesté pourtant une inquiétude en disant qu'on ne peut pas être rassuré tant que des variants du Covid-19 prennent de l'ampleur. Il préfère garder son masque en dehors de chez lui pour protéger sa famille qui attend son tour pour la vaccination. Un certain Shim, 74 ans, avançait qu'on ne peut pas distinguer par l'apparence qui est immunisé ou non et se sent gêné de sortir sans masque alors que la plupart de ses citoyens le gardent toujours. Tin, 33 ans, qui attend un bus pour aller au centre-ville, partage l'avis de Shim en disant qu'on ne peut pas non plus demander à un passant qui n'a pas de masque, s'il a son certificat de vaccination. Les autorités sanitaires se méfient également d'une baisse de vigilance des citoyens du jour au lendemain. Un représentant de la province de Chungcheong du Nord a expliqué que tant qu'on n'a pas atteint l'immunité collective, il vaut mieux porter un masque et qu'il est conseillé de l'enlever à condition de pouvoir maintenir une distance de 2 mètres avec les autres ou de se promener dans des quartiers peu fréquentés. « Le petit frère de Lee Jun-seok, le chef du parti du pouvoir du peuple, un médecin, a été accusé d'avoir divulgué à Lee des informations sur les patients qu'il a soignés. Cela suscite l'attention du public sur la portée des informations médicales que les médecins ne devraient pas laisser fuir. L'association civique pour l'anticorruption a signalé le 23 juin le frère de Lee à la police. Shim Seung-mok, le représentant de l'association, s'est exprimé sur son compte de réseau social en prétendant que ce docteur avait partagé à plusieurs reprises des informations personnelles qu'il a recueillies pendant qu'il traitait Lee Jae-sun, le défunt frère de Lee Jae-myung, maire de la ville de Seongnam à l'époque, et que le leader du PPP en avait révélé à travers les médias. Depuis que le médecin en question a été accusé, toute l'attention des internautes se concentre sur la question de savoir si les informations diffusées concernant des informations que les médecins ne sont pas autorisés à divulguer. En réponse, l'agence de presse Yonhap a fait une recherche sur les lois et les règlements concernés afin de répondre à la question de savoir si les informations sur un patient décédé sont également soumises à l'interdiction de divulgation en vertu de la loi médicale. Si on passe tout de suite à l'essentiel, les informations sur le défunt font également l'objet d'une interdiction de fuite. L'article 19 de la loi sur le service médical stipule qu'un médecin ne peut divulguer ou annoncer des informations qu'il a apprises lors de l'exercice de son travail et qu'en cas de violation, il est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 ans ou plus ou d'une amende ne dépassant pas 30 millions de won, soit environ 22 300 euros. À cet égard, la Cour suprême a statué dans le passé que l'obligation du personnel médical protège non seulement la confidentialité personnelle, mais aussi l'intérêt public, qui est la confiance du public dans la confidentialité. Le tribunal a ajouté que, de ce point de vue, la relation de confiance entre le personnel médical et les patients ne changeait pas dans son principe, même après le décès de leur patient. Un groupe d'étudiants ont créé des chaussettes spécialement pour les personnes malvoyantes. L'histoire d'une personne atteinte d'un handicap visuel qui achetait 30 paires de chaussettes uniquement de couleur blanche leur a donné une inspiration. Le groupe nommé Resight, composé d'étudiants de différentes spécialités de l'université de Katon, développe des vêtements au service des personnes handicapées qui souffrent de disparités d'informations en raison d'absence de dispositifs qui permettent de distinguer entre différentes fringues. Ils ont dit avoir rencontré des personnes malvoyantes afin de se faire des idées pour de nouveaux produits et avoir perçu le besoin pour le développement de chaussettes lorsqu'ils ont entendu qu'un aveugle n'achète que des chaussettes blanches afin d'éviter d'en porter deux côtés de couleurs disparates. En septembre 2020, Lee Da-bin, 21 ans, représentante de Resight, a réuni Moon Jong-hyun, étudiante en littérature coréenne, Shin So-hyun du département de psychologie, Ho Dong-jun et Kim Eun-gyeol, tous les deux étudiants en business administration, afin de lancer leurs activités ensemble. Après 8 mois de recherche, ils ont sorti officiellement le produit conçu pour les non-voyants en recourant à une collecte de fonds sur la plateforme Wadiz. En une semaine, leur montant cible a été atteint. Ils ont ajouté sur le cou des chaussettes des boutons pression dont le nombre varie selon la couleur et du braille en silicone antidérapant sur le bas indiquant la couleur. Shin, qui était principalement en charge des entretiens avec ses clients, a déclaré que ces derniers ont du mal à mettre correctement leurs chaussettes et qu'il leur arrive souvent d'en mettre une paire dépareillée. Kim, responsable de communication publique, a ajouté que la plupart des malvoyants n'avaient d'autre choix que d'imaginer des informations sur les vêtements avec l'explication d'un assistant que les personnes non handicapées tiennent pour acquises dès que la couleur, le motif et la coupe. La réaction des utilisateurs de leurs produits est plutôt positive. Ils ont reçu des commentaires selon lesquels les utilisateurs ont pu retrouver leur estime de soi parce qu'ils pouvaient mettre leurs chaussettes tout seuls sans assistance. Le groupe Resight a pour objectif de développer d'autres produits, notamment des hauts et des bas, ou d'appliquer de tels dispositifs à du prêt-à-porter en mettant en avant leur slogan « Toute la population, hommes et femmes, vivent vieux et jeune, handicapé ou non handicapé, a le droit de profiter de la mode.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Kim Hong-ju ce lundi 5 juillet. En Corée du Sud, le marché de l'art est en plein essor. Dans la foulée du récent boom du marché de l'art, les ventes aux enchères nationales d'art au premier semestre cette année ont enregistré un montant 3 fois supérieur à celui de l'an dernier. Selon l'Association coréenne d'évaluation du marché de l'art, le montant total des transactions s'élève à 143,8 milliards de won, soit environ 107 millions d'euros. Il s'agit du montant des transactions en ligne et hors ligne, réalisé de janvier à juin dans 8 maisons de vente aux enchères, dont Seoul Auction et K-Auction. Le taux d'adjudication au premier semestre était de 65,4%, sans grande différence avec celui de l'année dernière, mais le volume de pièces soumises a augmenté, en totalisant 16 822 contre 14 224 en 2020. En ce qui concerne le montant total des offres gagnantes pour chaque artiste, Yi-Wan prend la tête pour la 2e année consécutive avec 14 millions d'euros et 86% de taux adjudication. L'œuvre attribuée au plus cher offrant est le Jardin de Saint-Paul de Vence de Marc Chagall de 1973. Parmi les artistes coréens, le dessin au pointillé en couleur arc-en-ciel de Kim Hwan-gi a été adjugé le plus cher à environ 2,27 millions d'euros. Kim Yong-seok, président de l'Association d'évaluation des prix du marché de l'art de Corée, expliquait que le don de la collection Igoni, le défunt BDG de Samsung, et la fièvre de l'investissement dans l'art semblaient y avoir joué un rôle positif. Où sont passées les nombreuses hirondelles? Telle est la question posée par des étudiants de l'île de Jeju. Pour étudier leur instinct de revenir au nid, ils ont commencé à leur mettre une bague aux pattes. Il y a quelques années, les excréments laissés par ces oiseaux étaient observés sur le bord des routes en été ou sur les voitures garées la nuit dans le centre-ville de Jeju. Cependant, il n'est pas facile de voir leurs traces sur cette île méridionale. L'habitat des groupe d'hirondelles qui se situait autrefois autour de la cathédrale centrale ou de la rue Chilsonglong semble se déplacer de plus en plus vers le mont Halla. Le rectorat de Jeju a annoncé le 30 juin qu'une étude avait été lancée sur le taux de retour des hirondelles afin de susciter l'intérêt des élèves pour l'environnement écologique et d'augmenter leur sensibilité. Il s'agit d'un programme qui fait partie d'un projet commun avec l'Institut de l'éducation écologique sous la tutelle du rectorat de la province de Gyeongsang du Sud. Les élèves du club de recherche en écologie et le groupe de recherche des enseignants en éducation à l'environnement écologique participent à ce projet d'exploration de la vie organique des hirondelles. Selon la recherche sur des animaux sauvages menée par l'Institut national de ressources biologiques, la densité de l'habitat des hirondelles par kilomètre carré est passée de 81,4 en 2018 et 40 en 2019 et l'an dernier. Yang Hyo-san, surintendant du rectorat de Jeju, a expliqué que le nombre d'individus semble diminuer en raison des changements de l'environnement résidentiel, à savoir que davantage de gens habitent dans un appartement au lieu d'une maison, et dans le cas de l'année dernière, les difficultés d'approvisionnement alimentaire dues aux vagues de chaleur, aux longues saisons des pluies et aux changements climatiques seraient les principales causes de la chute chute du nombre des hirondelles. Pour y faire face, l'agence de l'éducation a demandé l'autorisation de capturer et de collecter des animaux sauvages auprès des municipalités de Jeju et de Seogwipo afin d'attraper 12 hirondelles et d'attacher une bague à leurs pattes. Après avoir enregistré leur envergure, la longueur des plumes de la queue, le poids, etc. Sur la bague, un numéro unique est gravé pour identifier chaque individu. En amont de ce travail, environ 40 élèves de 5 écoles primaires et secondaires ont recueilli des informations avec leurs enseignants sur l'emplacement et le nombre de nids et d'œufs autour de leur école. Ils envisagent également d'attacher un outil de poursuite à ces oiseaux qui permettent d'examiner les conditions environnementales et les niveaux de pollution. Un influenceur britannique et fan du groupe de K-pop BTS, qui se considère comme un Coréen, annonçait qu'il était menacé de mort. Holly London, détenteur de 310 000 abonnés sur Instagram, s'est fait opérer 18 fois en payant 200 000 dollars pour ressembler à Jimin, un membre de BTS. Il a uploadé le 27 juin une vidéo filmée en sortant de sa dernière opération de chirurgie plastique, dans laquelle il se présente comme un Coréen prénommé Jimin. Selon des médias étrangers, Holly London a déclaré dans une interview accordée à TMZ, un média de divertissement, que juste après la mise en ligne de sa dernière vidéo annonçant son opération de chirurgie esthétique, il avait reçu des milliers de messages le faisant savoir que sa vie était en danger. Selon lui, le public n'accepte pas le fait qu'une célébrité ait changé d'ethnie. Il a souligné qu'il considérait son choix comme un changement de sexe et qui serait né comme Jimin dans une autre vie. Face à la critique des internautes qui jugent raciste son choix de relever les coins des yeux, il a rétorqué qu'il s'agissait juste d'un acte contraire à ce que font beaucoup de Coréens, à savoir changer la forme de leurs yeux comme ceux des Occidentaux.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Notre première destination est l'Inde, où la Cour suprême a condamné la semaine dernière le gouvernement à dédommager la famille des personnes décédées à cause du Covid-19, une décision sans précédent dans le monde. Selon India Today, en vertu du jugement, l'Autorité nationale de gestion des catastrophes devrait élaborer une directive du versement de l'indemnisation en moins de 6 semaines. Les familles des victimes ont réclamé une enveloppe de 400 000 roupies indiennes, soit 4 500 euros par famille, mais la plus haute juridiction du pays a laissé l'exécutif décider lui-même le montant. La loi indienne stipule à partir de 2015 que l'État doit indemniser les habitants qui ont perdu la vie en raison de catastrophes nationales. Pourtant, le gouvernement prétend que cette législation se limite aux désastres naturels dont l'épidémie ne fait pas partie et qui n'a pas les moyens financiers de fournir la somme demandée. Le pays de Gandhi vient de franchir la barre des 400 000 décès du coronavirus. Nous nous dirigeons maintenant à Singapour, qui a présenté une nouvelle vision de la gestion de la pandémie de COVID-19. Selon CNN, la feuille de route récemment dévoilée par un groupe de travail sanitaire vise à coexister avec l'épidémie pour retourner à la vie normale. La nouvelle réglementation consiste à arrêter de tracer les personnes contaminées et de compter le nombre de nouvelles infections, sauf les malades en état grave. Les restrictions sur les rassemblements et les voyages seront également levées. Cette décision repose sur le fait que le modèle actuel de prévention, axé sur l'objectif de zéro contamination, ne peut pas perdurer dans le contexte où de nouveaux variants ne cessent d'apparaître. D'après les autorités publiques, il sera possible de mener une vie normale en considérant la pandémie comme quelque chose de moins menaçant, comme la grippe saisonnière et la varicelle. Déplaçons-nous au Japon. Pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, 100 robots accueilleront les voyageurs à l'aéroport de Narita pour minimiser les risques de contamination au COVID-19. À en croire le quotidien Asahi Shimbun, ces robots hauts de 23 cm sont capables de dialoguer avec les visiteurs en tournant la tête et en bougeant leurs bras. Ils seront commandés à distance par 25 bénévoles depuis chez eux à l'aide d'un ordinateur ou d'un smartphone. Nommés Orihime, ces robots avatars sont déjà utilisés dans des cafés ou pour venir en aide aux personnes handicapées. Direction à présent la Thaïlande, où certains fans de K-pop utilisent des tuk-tuk, des taxis électriques motorisés pour faire la promotion de leurs vedettes préférées. D'après l'agence Reuters, jusqu'à présent, il était coutume de louer un panneau d'affichage dans des stations de métro, mais le groupe de fans de la chanteuse Jessica Jung a récemment changé son mode de communication pour protester contre le métro qui a entravé les manifestations anti-gouvernementales. En octobre dernier, lorsque le mouvement civil a atteint son pic, le transport public a suspendu ses services sans préavis dans le but d'empêcher le déplacement des militants. Selon un responsable, ce dispositif permet également de soutenir les chauffeurs de tuk-tuk qui souffrent de la chute des touristes dans le sillage du COVID-19. Voici notre dernière nouvelle d'aujourd'hui. Alors que les tensions en Pékin et Manille s'enveniment autour de la mer de Chine méridionale, les Philippines tentent de repousser les navires chinois qui envahissent leur territoire maritime en misant sur des voies féminines. Selon le Washington Post, cette opération militaire dite « Ange de la mer » consiste à diffuser des avertissements vocaux d'agentes féminines à travers la radio. Les gardes-côtes s'attendent à ce que la voix des femmes permette de dissiper les tensions en rappelant aux militaires chinois leur mère ou leur copine. Or, ce dispositif a été pointé du doigt par des associations féministes comme renforçant les rôles traditionnellement dévolus aux femmes. D'un autre côté, des experts mettent en cause son efficacité en estimant que des bateaux chinois font une intrusion pour une certaine région et que des voix féminines ne pourront pas les en empêcher.
Voilà, ainsi s'achève votre Séoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Kim Mon-jeu au micro avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.